Mesdames, Messieurs, bonjour, c'est Jacques pour votre magazine d'actualité locale sur CFM Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à la demi. Et au programme aujourd'hui, Claude Izard, le président de l'Association des cuisineries françaises, est dans le coup de projecteur à suivre en seconde partie du magazine où il nous parlera en deux minutes du projet des sentiers gourmands, un projet qui vise à valoriser la cuisine traditionnelle de nos terroirs et par la gastronomie, un peu plus mettre en valeur aussi la diversité et la richesse de la France. On parlera des sentiers et gourmands avec Claude Izard. Et puis pour rester sur le thème de la gastronomie, la semaine dernière je suis allé manger dans un nouveau lieu de Cordes-sur-Ciel qui s'appelle la planche de Bacchus. C'est situé sur la grande rue Raymond VII et à la fois aussi sur la rue Saint-Michel. C'est une épicerie fine mais aussi un lieu comme ça où on peut déguster des bons produits de la région Occitanie, voire un tout petit peu au-delà. Christophe nous présentera le projet de la planche de Bacchus dans ce magazine. Et pour compléter le programme du jour dans À lire, à voir et entendre, la chronique de CFM Radio en partenariat avec les médiathèques du coin. C'est la médiathèque de Carmaux aujourd'hui qui nous présente une autrice plutôt de littérature jeunesse. Elle s'appelle Delphine Chedru et elle était accueillie par la médiathèque de Carmaux il y a quelques jours pour intervenir auprès d'un public scolaire des écoles de Carmaux qui sont passées à la médiathèque découvrir le travail de Delphine Chedru et puis parler aussi avec elle un peu de littérature jeunesse. Et c'est Odette qui aujourd'hui se propose de nous présenter le travail de Delphine Chedru et de s'entretenir avec elle. Un programme chargé pour ce magazine que l'on va dérouler après la musique. Holding Wolf. Spoonful par Holding Wolf.
CFM Cordes, le mag.
À lire, à voir, à entendre.
À lire, à voir et à entendre.
En partenariat avec la médiathèque de Carmaux. À lire, à voir et à entendre.
À lire, à voir, à entendre.
I think it's time to blow this thing. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
À la médiathèque de Carmaux aujourd'hui, c'est plutôt un rendez-vous jeunesse que l'on vous propose sur les ondes de CFM Radio, parce qu'à la médiathèque, de temps en temps, il leur arrive d'inviter et d'accueillir des auteurs qui viennent parler de leur travail, présenter aussi leur travail. Et c'est le cas de Delphine Chedruy qui a choisi plutôt de parler aux enfants. Voilà, ça a été un peu son cheval de bataille, c'est-à-dire de parler aux enfants, des fois par l'intermédiaire quand même des parents. Et c'est Odette de la médiathèque de Carmaux qui va nous faire découvrir à la fois le personnage et puis le travail aussi de Delphine Chedruy. Odette, c'est à toi.
Bonjour, on est très heureux de vous recevoir à la médiathèque de Carmaux, Delphine. Vous venez de Paris spécialement pour nous, suite à une invitation du Salon du Livre pour enfants d'Albi. Je suis contente de vous recevoir parce que j'aime beaucoup vos albums qui s'adressent en général aux enfants à partir de 1 an et vous abordez de façon originale des thématiques qui leur parlent. L'apprentissage des chiffres, les animaux, les contraires, la nuit. Vos livres sont ludiques, amusants, très colorés. Il y a souvent des chemins à suivre avec le doigt, des trous, des volets à soulever, des pages à scruter avec attention pour trouver des détails cachés, des énigmes à résoudre pour les plus grands. Votre univers est joyeux, plein de surprises et d'aventures, et il ne peut que séduire les enfants. Voilà. Alors j'avais quelques questions à vous poser. D'abord, quand vous étiez petite, est-ce qu'on vous a souvent lu des livres? Est-ce que vous-même, vous lisiez beaucoup?
Oui, bien sûr. En fait, mon lien avec le livre pour jeunesse vient vraiment de mon enfance. Je suis dans une famille qui était très attachée aux livres. J'ai une grand-mère qui a gardé ses livres elle-même de quand elle était petite. Les livres de mon père, je les ai lus. Donc, en fait, voilà, je suis baignée de culture jeunesse, aussi bien des années 40, 50, 60. Moi, je suis née dans les années 70. C'est une époque où il y a eu une grande variété, une explosion de la littérature jeunesse. Et c'est vrai que de mon enfance, je n'ai pas gardé ni de jouets, ni de peluches, mais mes livres, je les ai gardés parce que c'est quelque chose, j'ai un lien affectif. Et c'est aussi ce qui m'a permis après d'aborder des études d'art, parce que le livre pour enfants, c'est à la fois du visuel et du texte. Donc c'est un premier pas vers la littérature adulte et vers l'image, donc l'histoire de l'art, les tableaux, le cinéma. Enfin voilà, pour moi, c'est le début de tout. Et c'est une fois que je suis devenue maman, que j'ai racheté des livres pour enfants, que je me suis dit, mais c'est vraiment trop génial cet univers et j'ai envie d'en faire partie. Donc j'ai fait mes premiers livres une fois que j'étais mère.
Alors, comme vous connaissez bien la littérature jeunesse, quels sont les livres ou les auteurs qui vous ont marqué quand vous étiez petite ?
Ah, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a des grands classiques comme Tommy Ungerer, Les Trois Brigands, tous les livres de Maurice Sendak, à commencer par Max et les Maxi-Monstres, qui est vraiment qui était une révélation et que je continue à trouver absolument génial. Les livres d'Arnold Lobel, donc Histoire de souris, La soupe, Porculus, enfin voilà, il y en a beaucoup. Et puis après, une veine un peu plus graphique avec Elia Marie, et Bruno Munari, qui sont des auteurs italiens, qui sont très graphiques, assez schématiques, mais avec une grande poésie dans leur univers. Voilà. Et puis après, il y a aussi Les Malheurs de Sophie. Il y a beaucoup de choses.
D'accord, merci. Vos albums sont aussi très colorés. Vous aimez beaucoup la couleur. Comment est-ce que vous illustrez vos histoires ?
D'abord, l'histoire, elle vient pas forcément que du texte. Des fois, c'est aussi une image. J'ai une vision d'une image et je la développe. Par exemple, tout à l'heure, vous parliez des livres où on suit un chemin avec le doigt. Là, c'était la ligne même et l'image d'une grosse ligne qui m'est venue et j'ai travaillé l'image comme ça. Et c'est vrai que vous parliez de la couleur. Mes albums sont très colorés parce que je vois le monde et ce qui m'anime par rapport au monde qui m'entoure, c'est les couleurs. Que ce soit des gens que je croise, la gamme de couleurs de leurs habits, un tableau, un film, c'est le rapport de couleurs qui m'intéresse. Une couleur toute seule n'est rien, mais quand on place du bleu à côté d'un certain rouge et puis d'un vert, il se passe quelque chose. Et si on met un autre bleu et puis un autre vert, il va se passer autre chose. Donc c'est un peu comme des notes de musique pour moi. C'est des accords de couleurs qui procurent certaines sensations, sentiments et qui vont appuyer mon propos dans ma narration ou dans mon jeu. Donc à chaque fois, je m'attache énormément à mes couleurs et au choix de mes couleurs.
Et puis les enfants sont toujours surpris que vous ne dessiniez pas avec de la peinture, des crayons. Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous dessinez, comment vous illustrez ?
Alors ça, c'est souvent un jeu que je fais avec les enfants que je rencontre. Je leur dis, alors à votre avis, avec quoi je dessine? Alors, des crayons? Non. De la peinture? Non. Des pinceaux? Des pastels? Enfin voilà, j'ai le droit à toute la gamme de trucs traditionnels. Et en fait, je travaille sur ordinateur, donc je crée toutes mes images sur un logiciel qui s'appelle Illustrator, qui permet de faire des gammes très variées avec des aplats. Donc moi, c'est que des aplats. C'est comme si je prenais du papier découpé et que je découpais dedans. Et ça me permet d'avoir une variété de couleurs infinies, mais je ne fais ça que sur ordinateur. Après, c'est quand même moi qui dessine, qui fait les dessins, mais je ne touche pas d'encre ou de peinture.
Alors, vous créez des livres très ludiques, comme on l'a déjà dit, et beaucoup s'adressent aux tout-petits. Pourquoi ce public vous intéresse particulièrement ?
Parce que je trouve que en dehors de la narration ou de la parole, l'image peut permettre de s'adresser aux tout petits. Et j'étais surprise quand je suis devenue mère, et puis même après en faisant des rencontres dans des crèches et tout ça, de la capacité des plus petits à comprendre plein de notions, que ce soit la peur évidemment, la surprise, l'humour. Un petit d'un an et demi, il a un sens de l'humour. Donc on peut faire des blagues, on peut raconter des choses drôles dans les livres, et ça m'intéresse d'interagir avec la naissance des émotions presque chez l'enfant. Je trouve que c'est quelque chose qui est très émouvant. Et ça m'oblige aussi à une synthèse graphique. Quand on s'adresse aux tout-petits, on ne peut pas mettre des millions de détails, on est obligé d'être très synthétique. Et c'est presque une forme d'abstraction graphique que je trouve très intéressante. Et je sais aussi, en ayant écouté des psychomotriciennes, des médecins, que l'abord de la couleur, le contraste de la couleur est important. Donc tout ça, je le sais et je l'utilise pour essayer de toucher le plus jeune public.
D'accord. Pour finir, une dernière question. Quels sont vos projets ?
Alors, je suis en train de finir un livre qui va s'appeler « Chat méchant » parce que j'avais envie de parler de la méchanceté, de la notion de méchanceté. Qu'est-ce que c'est être méchant ? Qu'est-ce que c'est être gentil ? Tout ça, c'est assez... ça peut fluctuer. Et puis, j'avais envie de dire qu'en fait, en chacun d'entre nous, que ce soit les enfants et les adultes, mais c'est souvent aux enfants qu'on dit « t'as été méchant, c'est pas bien ». Alors que chez les adultes, c'est pareil, voire pire, mais que la méchanceté peut faire partie de notre... on n'est pas forcément tout le temps gentil. Et donc, c'est l'histoire de chats qui sont méchants et qui vont petit à petit trouver le chemin vers la gentillesse. Et puis, à la fin, il y a une espèce de culbute où on comprend qu'ils sont à la fois méchants et gentils, comme chacun d'entre nous. Voilà.
Merci beaucoup. Et nous invitons tous les parents, les enfants à venir découvrir les livres de Delphine à la médiathèque. Nous en avons beaucoup.
À lire, à voir, à entendre.
À lire, à voir et à entendre.
En partenariat avec la médiathèque de Carmont. À lire, à voir et à entendre.
À lire, à voir, à entendre.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
CFM Radio, votre radio dans le Tarn.
Merci à Odette de la médiathèque de Carmont pour cette interview de Delphine Chedru, autrice de littérature jeunesse, accueillie il y a quelques jours à la médiathèque de Carmont. Le Mag du Tarn se poursuit avec, dans quelques minutes, la découverte d'un lieu, pour les épicuriens, c'est à Cordes-sur-Ciel, la planche de Bacchus, une épicerie fine, mais aussi, on va dire, un petit restaurant que l'on découvre après la musique. C'est Marie-Flore, Loud Dark Crowd, pour le titre.
Mother, you should know. Wherever I go,
de la fête est à Cordes-sur-Ciel. La planche de Bacchus vient d'ouvrir sur la rue. On est sur quelle rue là? On est sur la rue Raymond VII. Ouais, ouais, la grande rue Raymond VII où on peut s'arrêter dorénavant à la planche de Bacchus. Christophe, bonjour.
Bonjour.
Alors, la planche de Bacchus, c'est, on va dire, le type un peu d'espace qui se multiplie aujourd'hui. C'est à la fois une épicerie et à la fois un lieu où on mange. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce que vous faites ici?
Alors, en fait, on est sur un concept de bar à vin et grignotage. En fait, on déguste des planches de charcuterie fromage, planches de la mer ou bien planches apéro. Et tout ce que l'on consomme, que l'on déguste ou que l'on boit, on peut l'acheter dans la boutique ensuite. Donc en fait, on est sur un concept avec des produits régionaux, locaux, à 99% sur du bio, pour le vin notamment du bio, de la biodynamie, voire naturel.
Très bien. On va rentrer un peu pour voir qu'est-ce que vous nous proposez comme produit. Donc déjà, on rentre dans un superbe espace. C'était deux boutiques avant ici, non? Il y a eu des travaux là.
Oui, c'était deux boutiques. En fait, il y avait une boutique en bas qui était une galerie d'art et puis cette boutique. Donc on a acheté l'ensemble et on a fait se rejoindre les deux boutiques via une trémie et un escalier pour pouvoir bénéficier de la petite terrasse côté rue Saint-Michel.
Oui. Donc là, on est plutôt ici sur la rue, la grande rue Raymond. C'était plutôt l'espace, on va dire, épicerie.
Oui, tout à fait, exactement. Là, donc comme ça, les clients peuvent profiter de la terrasse au calme, ombragée derrière. Et puis, une fois qu'ils ont terminé de déguster, ils peuvent remonter, ils se dirigent vers la caisse et ils peuvent voir tous les produits que nous proposons à la consommation.
Mais tiens, parlons-en de ces produits. Je vois qu'il y a du foie gras, des rillettes de canard. Donc là, si je comprends bien, là, c'est plutôt le coin un peu volaille. Là-bas, qu'est-ce que je vois? Le coin des apéros, donc des tartinades.
Ouais. Des tartinades, tout à fait.
Parle-nous un peu des produits. Ils viennent d'où? Comment est-ce que vous les sélectionnez?
Alors nous, on les a sélectionnés par rapport à notre identité. Encore une fois, on veut être sur du local, sur de l'artisanal, voire sur du bio. Donc là, sur la droite, nous avons tous nos tartinables que nous proposons avec des croutons sur des planches apéro. Ensuite, nous avons également des miels du Tarn, donc faits par des apiculteurs, donc en bio, évidemment. Et puis là, au centre, nous avons tout ce qui est terrine, foie gras. Alors sur les terrines, on travaille avec une ferme en local et puis également avec une ferme des Hautes-Pyrénées, Pierre Sajou, qui nous propose donc par exemple des rillettes de porc noir de Bigorre et puis mais aussi sur les planches des jambons de coche de 24 mois, des terrines au cèpe, voilà. Et puis on a la vitrine réfrigérée dans laquelle on peut retrouver tous nos, bien évidemment les charcuteries sensibles et puis aussi les fromages. Pour ce qui est des fromages, on travaille avec deux fromageries en local, donc la vacherie de Rivet, avec laquelle nous proposons de la tomme, du brivet et puis un persillé. Okay. L'intérêt de cette fromagerie, c'est que c'est une ferme complètement autonome. En fait, ils ont leurs vaches, leurs prés, ils cultivent leurs ferments. Tout est fait sur place et on est sur du bio et du lait cru. Mmh. Et pour les brebis, on travaille avec la fromagerie Marty au nord de la Guépie, là aussi sur du bio et du lait cru.
Et là, de ce côté-ci, il y a le vin. Avant de parler de vin, je vois qu'il y a... C'est des thés, non? C'est pas du thé qu'il y a par là-bas ou des tisanes?
Oui, il y a du thé, des infusions. Donc c'est Georges Canon, c'est une sélection que nous avons décidé de faire, puisque ce sont des thés qui sont peu connus et qui sont là aussi sur le bio.
Ouais. Après, en vin, en bière, du local, mais aussi vous nous faites un peu voyager. Là, je vois qu'il y a une belle sélection de vins, qu'ils soient rouges, blancs ou rosés.
Alors, pour les vins, nous avons décidé de travailler uniquement avec des artisans vignerons, des petits producteurs. À 99%, on est sur du bio, biodynamie, voire naturel. Nous travaillons avec un agent co qui est dénicheur de talent. Et donc nous avons des vins des quatre coins de la France et ce sont vraiment des vins à identité. On n'a pas de vin standardisé ici et on le voit avec les étiquettes qui sont un peu décalées. Donc ça va de l'Alsace en passant par le Beaujolais, Rhône-Nord, Rhône-Sud, les vins du Languedoc et nous avons aussi une gamme de Bordeaux et puis bien évidemment toute la gamme Gaillac. Alors là aussi, en Gaillac, on travaille sur du bio, sur du naturel, avec le domaine de Brun et le domaine Guérard.
Que des vins français?
Que des vins français, même si nous avons des cépages comme le Sangiovese, un cépage du Chianti, mais qui est fait dans le Gard.
Alors pour manger, si j'ai bien retenu, ça va de 7 euros et des poussières à 24 euros, je crois.
Oui, tout à fait, 24 euros, on est sur une planche premium avec ce qu'on appelle la canardise. Donc on va découvrir dedans notre foie gras médaillé, des rillettes de foie gras, des rillettes avec des cuisses de canard et puis 20% de foie gras dedans. Et puis une rillette, une terrine aux deux magrets, magret de canard et magret d'oie. Et on finit avec des petits magrets séchés de canard qui sont juste à tomber.
Et comme il fait beau, on peut manger du coup sur la terrasse qui est située sur la place du Puy de Cordes-sur-Ciel. Vous avez eu la bonne idée d'ouvrir en pleine année Covid. Alors comment ça se passe là cette année pour vous ?
Alors cette année, nous avons décidé d'ouvrir effectivement. C'est un projet qui date d'il y a 2 ans, donc on l'a fait mûrir ce projet, on l'a travaillé. Et puis Covid, comme beaucoup l'année dernière, on s'est dit ça va durer 6 mois et puis après on pourra travailler normalement. Bon, le projet étant lancé, on est allé jusqu'au bout. On a ouvert à Pâques cette année. On a ouvert 3 jours. Ensuite, on a fermé 1 mois puisque les contraintes des 10 km ont fait qu'il n'y avait personne à Cordes-sur-Ciel. Et puis, on a rouvert avec la fin. Et là, donc, on a eu un petit peu de monde. Et puis, on a bénéficié de notre terrasse à partir de la Pentecôte, où là, il y a eu effectivement du monde. Et puis maintenant, les gens peuvent rentrer à l'intérieur en scannant leur QR code. Voilà, donc maintenant la saison est lancée, on l'espère, et pour longtemps.
Les horaires d'ouverture de la planche de Bacchus, Christophe ?
Alors les horaires, nous sommes pour l'instant fermés le mardi. Nous fermons à 19h le soir. Nous avons décidé de fermer à 21h le samedi pour que les gens puissent profiter d'un apéritif ou d'un grignotage le samedi soir. Et puis cette saison, l'été, nous ouvrirons 7 jours sur 7 avec possiblement des nocturnes. On va voir, on réfléchit, on est sur notre première année. Donc on est là pour observer et voir comment ça se passe. Mais vraisemblablement, on imagine déjà à l'automne, parce qu'il y a une belle cheminée, pourquoi pas un bon feu de cheminée et faire une soirée Mondor pour faire découvrir des vins d'Arbois ou des soirées avec de la musique. On est là, on est en phase d'observation, on regarde comment ça se passe et on s'adapte, on a plein d'idées. Et on va tout faire pour pérenniser notre projet.
Je suis toujours curieux de savoir un peu comment est-ce que des projets comme cela naissent. Vous étiez où avant ? Vous faisiez quoi, ce type d'activité ou pas ?
Alors absolument pas, c'est véritablement une reconversion. Donc nous, c'est notre côté épicurien. On adore les bons produits à déguster, on adore le vin. Et puis on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Donc pour ma part, j'étais cadre commercial dans le jeu vidéo. Ma femme était dans la banque et on a décidé de tout plaquer pour ouvrir la planche de Bacchus. C'est un projet qui nous tenait à cœur. On y a mis beaucoup de notre personne, de notre passion. Et puis on essaie de véhiculer vraiment cette envie de partager, d'échanger avec les gens que l'on voit. Et on est véritablement dans la bienveillance avec tous les gens que nous rencontrons.
La planche de Bacchus, Grand Rue, Raymond 7, à Cordes-sur-Ciel, le numéro
46, c'est à côté de l'office de tourisme.
Merci Christophe.
Merci beaucoup.
CFM Cordes, 3 lettres, un esprit, le rock. Coup de projecteur, CFM.
Mieux valoriser le patrimoine culinaire de nos régions et proposer une véritable offre qui allie tourisme et gastronomie, c'est le sens des sentiers du patrimoine gourmand français sur lequel travaille actuellement l'association Les Cuisineries Françaises, dont Claude Izard est le président.
C'est pour identifier les artisans qui encore subsistent en France. Ça veut dire les artisans qui ont de toute façon tous, ils sont tous artisans du goût. Et ils ont eu un contrôle pour vérifier si vraiment la pratique de l'artisanat dans leur entreprise est vraiment réelle. Et donc l'idée, c'est simplement de préserver l'artisanat traditionnel. Aujourd'hui, il est menacé, donc vraiment, je pense qu'il est très nécessaire aujourd'hui de redévelopper même l'artisanat en milieu rural, dans les campagnes, dans les centres-villes. Sinon, demain matin, les campagnes, ça va devenir des musées, d'ailleurs. L'émission de l'autre jour sur la campagne, on montre ça un peu comme des gens du siècle dernier, un peu un musée. Il faut que ce soit vraiment vivant et que l'artisanat soit réellement réel, parce que économiquement, les touristes qui viennent en France, c'est nos traditions, nos valeurs qu'ils recherchent. Donc je crois que c'est très important de revaloriser cet artisanat, toutes ces spécialités culinaires qui sont, c'est de la gastronomie, mais c'est pas la gastronomie, disons, des cours, des bourgeoises, c'est la gastronomie populaire. C'est la vraie gastronomie française, celle qui utilise tous nos produits et le savoir-faire des artisans. Donc vraiment, c'est nécessaire aujourd'hui de tout faire pour maintenir, valoriser ces territoires.
Développer la découverte des territoires par la gastronomie et les arts culinaires, l'objectif à terme des Sentiers du Patrimoine est de créer un guide touristique qui regrouperait par secteur toute la filière alimentaire artisanale du département, avec aussi des recettes patrimoniales.
Reportage, interview, témoignage, CFM, coup de projecteur.
Du Tarn, c'est tout pour aujourd'hui. Les infos arrivent sur CFM Radio et demain, nous serons en compagnie des élèves de l'école primaire de Le Ségur qui viennent nous faire un peu le bilan des différents projets pédagogiques qu'ils ont menés tout au long de cette année scolaire. Merci d'être à l'écoute de CFM Radio.